Aujourd'hui, la masterclass d'Amélie Nothomb avec Mathilde Serrel.
Amélie Nothomb, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Et bienvenue Madame la Baronne.
Ciel.
C'est votre titre depuis 2 ans. Merci d'avoir accepté donc de vous prêter au jeu des masterclass de France Culture à la BNF. Une série d'entretiens où les auteurs nous livrent le comment et le pourquoi de leur écriture. Bref, exactement ce que déteste, interrogé par des journalistes dans votre premier roman, l'écrivain, dans Hygiène de l'assassin en 1992. D'ailleurs, votre personnage, qu'on n'imagine pas si éloigné de vous, a une théorie. Si un auteur parvient à être passionnant à propos de sa création, il y a 2 possibilités. Soit il répète tout ce qu'il a écrit dans son livre, soit il explique des choses intéressantes dont il n'a pas parlé dans son livre, auquel cas le dit livre est raté, puisqu'il ne se suffit pas. Ça, c'est du noton dans le texte. Merci d'être là, donc. Et tant pis si vous êtes passionnante. Depuis Hygiène de l'assassin, qui vous révèle donc au public à 22 ans, vous avez publié 25 autres romans, un à chaque rentrée littéraire, parmi les 4 que vous enfantez annuellement, pour reprendre une image qui est la vôtre. Des enfants littéraires, traduits dans 37 langues et adaptés au cinéma comme au théâtre. Des enfants couronnés, puisque vous avez reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, le Grand Prix Jean Giono pour l'ensemble de votre œuvre, le Prix de Flore. Des enfants d'un dieu vivant ou d'une déesse, puisque vous êtes devenu un mythe. Chapeau, rituel, succès. Pas de chapeau, ouais. Mais enfin, ça a quand même contribué au mythe, hein. Pas de chapeau aujourd'hui exceptionnellement. Sans oublier l'incroyable relation que vous entretenez avec vos lecteurs, qui sont sûrement là ce soir. La légende s'est construite du statut de personnage de vos romans. Vous êtes devenu un personnage de romans. C'est l'honneur, la stupeur et les tremblements de vous poser cette première question, Amélie Nothomb. Pourquoi avez-vous choisi le métier obscène d'écrivain plutôt que celui respectable de conducteur de train?
J'adore votre question. J'ai choisi ce métier obscène d'écrivain parce que vraiment, j'y ai été acculée. J'ai attendu d'y être acculée. Ce n'était pas du tout mon premier choix. J'avais choisi bien d'autres métiers auparavant, tel que celui de martyr, ça a très bien marché, mais ça ne nourrit pas sa femme. Tel que celui de japonaise, ça a été une véritable catastrophe, tout le monde est au courant. Bref, ayant épuisé mes maigres possibilités, parce que véritablement mes talents sont rares et généralement ne rapportent rien. Par exemple, l'un de mes métiers précédents, j'ai été professeur de baisemain. Je vous assure que j'ai été l'un des meilleurs professeurs de baisemain du monde, mais ça ne rapportait rien. Donc, ayant lamentablement échoué dans toutes mes professions précédentes, j'ai été acculée à la dernière, je ne vais pas dire de mes talents, au dernier de mes talents, parce que je ne sais même pas si je possède ce talent, j'ai été acculée à ma dernière hypothèse. La dernière hypothèse, c'était écrivain, en ceci que j'écris depuis que j'ai 17 ans, pas du tout dans l'intention d'être écrivain, mais de façon maladive, parce que comment voulez-vous vivre sans écrire? C'est tellement difficile de vivre que sans cette chose dont je n'ai toujours pas compris au juste ce que c'était, mais sans écrire, la vie n'est juste pas possible. Alors, suite à tous mes échecs professionnels, je me suis dit, après tout, il te reste cette possibilité, pourquoi as-tu peur d'un échec de plus? Tu t'es déjà tellement ridiculisé, pourquoi as-tu encore peur du ridicule? J'ai l'air de rire, mais c'est vrai, j'ai attendu d'être acculée à cette possibilité-là, de n'avoir plus peur d'aucun ridicule pour me lancer. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, c'est parce que je n'ai plus peur d'aucun ridicule.
On va reprendre Hygiène de l'assassin. Non, c'est le journaliste qui tue l'écrivain à la fin, il me semble. Vous considérez ce livre, je crois, donc votre premier roman, même si vous en aviez écrit une petite dizaine avant. Oui. Comme une sorte de manifeste sur votre art d'écrire, faites dire par la voix du personnage écrivain, prétexte à tâche. C'est vrai que c'est son nom, l'onomastique est toujours savoureuse chez vous, Amélie Nothomb, que c'est le métier le plus impudique du monde. Alors pourquoi est-ce que c'est le langage des mots qui s'est imposé pour vous, plus que celui de la musique ou des images?
Oh, je vous réponds avec la dernière honnêteté, parce que je n'avais pas l'embarras du choix. Si j'avais été capable de répondre par la musique, si j'avais été capable de créer par la musique, croyez bien que je l'aurais fait. Malheureusement, je n'ai absolument pas ce talent. J'ajouterais que je n'ai absolument pas cette éducation. Je viens d'une famille où la musique, c'est une chose qu'on écoute parce que ça se fait bien en société d'écouter de la musique. Mais la musique demeure une chose extérieure. Personne n'est musicien dans ma famille, alors que la littérature est une valeur profondément familiale. Je lis depuis toujours, je viens d'une famille où on incite à lire, et Dieu merci, j'ai très vite contracté la maladie infectieuse des mots, qui a quand même cette vertu d'être une maladie extrêmement facile à transporter, vu que l'un des premiers drames de ma vie a été les transports, c'est-à-dire le déménagement. Le premier drame de ma vie a consisté à quitter le Japon pour la Chine à l'âge de 5 ans. C'est très loin. Regardez sur une carte, le Japon et la Chine, c'est très loin. Il faut traverser toute une mer. Quand on perd tout, on garde les mots. Donc j'ai dû, au fil des déménagements, parce qu'il y a eu le Japon et la Chine, mais je vous épargne la suite, j'ai passé ma vie à déménager. Au fil des déménagements, j'ai dû apprendre une économie de ce qu'on ne perdait pas au cours de ces morts successives qui s'appellent les déménagements. C'est vrai qu'on ne perd pas le langage. J'ai fait plusieurs fois cette expérience qui consiste à être sauvée. Quand je me mets à parler à ma coupe de champagne, c'est qu'il est déjà trop tard. Ça veut dire que je confonds ma coupe de champagne avec le micro. J'ai fait cette expérience qui consiste à être sauvée par un mot, parce que, comme n'importe qui, j'ai fait cette expérience qui consiste à être assassinée par un mot. Les mots ont un pouvoir dévastateur. Un mot vous sauve, un mot vous tue. Le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là-dedans, il y a une vraie nitroglycérine dans le langage, et si je peux la manipuler avec les précautions qui s'imposent, je peux, à mon gré, tuer ou sauver. C'est extraordinaire.
Alors, vous commencez à tuer ou sauver à 17 ans, après ce traumatisme à 12 ans qui vous a intimé le devoir obscur d'écrire, comme vous le dites. Vous parlez alors d'un passage de l'histoire aux histoires. Comment ça se traduit ?
Avant l'âge de 12 ans, je n'ai jamais senti la nécessité d'écrire, pour la raison simple que j'étais perpétuellement en train de me raconter une histoire, l'histoire sans fin. Dès que j'étais seule, je reprenais le récit. C'était le manuscrit trouvé à Saragosse, c'est-à-dire qu'on passe d'un récit à l'autre sans aucune nécessité narrative. Du moment que l'histoire continue, tout va bien. J'étais donc ma propre Scheherazade et ça se passait très bien. Puis passons sur les détails, aucune puberté ne se passe bien de toute façon. Et c'est là que tout à coup le récit s'est arrêté. Et moi qui avais vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et demi dans le récit, tout à coup je me suis dit, mais comment vais-je faire pour continuer à vivre sans le récit, sans être capable de me raconter l'histoire, sans être mon propre aide, mon propre public. Il y a eu comme ça 5 années intermédiaires pendant lesquelles il y a eu tous les drames. Je suis devenue un squelette vivant, j'ai été anorexique au dernier degré, j'ai frôlé la mort, j'ai réappris à manger dans d'atroces souffrances. C'était vraiment... Quand on me posait la question à 15 ans de savoir quelle serait ma vie, moi je me disais, mais est-ce que ces gens m'ont bien regardé ? La seule question qu'on peut me poser décemment, c'est est-ce que vous allez vivre ou est-ce que vous allez mourir ? Et honnêtement, je ne connaissais pas la réponse. Et puis à 17 ans, j'ai lu Rilke, Lettre à un jeune poète, qui est un livre qui a totalement changé ma vie. Tout le monde doit le lire, même si on ne veut pas devenir écrivain, il faut absolument lire ce livre parce que c'est un chef-d'œuvre, parce qu'il a le courage de proposer la seule bonne question, qu'on veuille devenir écrivain ou non. En gros, ce que ce livre propose, c'est quoi que vous fassiez, que ce soit une question de vie ou de mort. Je n'avais jamais envisagé les choses comme ça. Et c'est là que j'ai su que je pouvais me sauver par les mots. J'en ai eu l'intuition. J'ai commencé à écrire tout de suite, dès que j'ai fini ce livre. Il a fallu des années pour que ce que j'appelais roman et que personne ne lisait commence à ressembler à quelque chose. Et voilà, le 11e de ces romans s'appelait « Hygiène de l'assassin ». C'est le premier que j'ai montré à un être humain, si tant est que les éditions Albin Michel soient un être humain.
Représenté parfois. Du coup, c'est la notion de révélation qui vous vaut mieux que la notion de vocation.
Oui. Alors, définitivement, j'adore le terme de révélation. Vous savez que révélation se dit apocalypse en grec. J'adore. Il y a une amphibologie géniale là-dedans. Ce que nous appelons fin du monde, c'est justement la révélation. La révélation, c'est quand on apprend que c'est peut-être la fin du monde et que c'est en fait que la fin du monde est une occasion exceptionnelle, l'occasion de tenter autre chose. Voilà.
Alors, puisqu'on est dans cette révélation, il y a cette constante aussi dans la manière dont vous allez aborder l'écriture. Ensuite, Amélie Nothomb, c'est de voir le rapport au texte comme une cicatrice inguérissable. Voire, vous parlez parfois d'hémorragie jouissive. Et vos romans viennent inlassablement appuyer sur les plaies. Si on prend le dernier, le 26e, Frappe-toi le cœur, il déroge pas à la règle. À 5 ans, Diane cessa d'être une enfant, écrivez-vous. 5 ans, c'est l'âge de votre première cicatrice inguérissable, oui. La séparation d'avec...
La mère japonaise.
Voilà, votre deuxième mère, Nishio-san.
Nishio-san, oui.
Et la formule d'Alfred de Musset exactement dit « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». En quoi vous frappez le cœur pour écrire Amélie Nothomb ?
Mais parce qu'il faut aller exactement là où ça fait mal. On croit que quand on va là, exactement là où ça fait mal, on va se meurtrir de façon inguérissable, alors que c'est paradoxalement ce qui nous sauve. Ce qu'il faut finalement, c'est que la machine reste en mouvement. Que peu importe que ce mouvement soit funeste, peu importe qu'il corresponde à une formidable déperdition de vitalité, du moment qu'il reste du mouvement en vous, allez-y. N'ayez pas peur de saigner. Vous savez, on trouve toujours un moyen de reconstituer son sang. Moi, j'ai trouvé ce moyen-là et je ne désespère pas, avec les années, d'attraper un sang doré.
La transformation du sang en champagne, hein, c'est l'alchimie d'Amélie Nothomb, justement. Comment est-ce qu'on transforme ce sang-là, ce jaillissement, en histoire? Comment ça vient? À quoi ça ressemble, par exemple, la genèse de l'écriture parodique de la Genèse dans Métaphysique des tubes?
Il faut à la fois une humilité, mais sans nom. Mais une humilité jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vraiment on est moins que rien, et il faut atteindre cette humilité-là pour se dire qu'on a le droit de réécrire la Genèse. Je vous rappelle que pour tout croyant, la Bible a été écrite par Dieu. On ne sait pas exactement dans quelles conditions, mais c'est quand même fou. Là, je suis en train de relire les textes de Genèse de Proust, les préfaces de Proust. Proust, qui n'est pas croyant, qui n'est pas du tout catholique, ne remet pas en cause une seule seconde le fait que la Bible ait été écrite par Dieu. C'est grandiose. Alors, petite, j'étais totalement mégalomane. Donc, petite, ça ne me posait aucun problème. L'idée d'être Dieu, c'était clairement mon objectif. D'ailleurs, ce n'était même pas mon objectif, c'était mon actualité. Bon, depuis, il m'est arrivé 2-3 trucs qui ont fait que j'ai totalement cessé d'être Dieu. Mais voilà, je suis le mélange de cette mégalomanie enfantine absolue, de ce contraire absolu de mon adolescence où j'étais moins que rien, où j'étais moins qu'une ordure. Le mélange des deux fait que écrire la Genèse, ne réécrire la Genèse, donner sa version de la Genèse, n'a rien d'invraisemblable. C'est d'autant moins invraisemblable que si vous lisez la Genèse, c'est déjà deux versions. Il y a la version yaviste et la version éloïste. Pourquoi on n'ajouterait pas la version nothombiste?
Alors, il y a cette version nothombiste qui existe. Il y a aussi des autobiographies romancées, il y a des contes, il y a des dialogues. Comment ça se décide, la forme que va prendre le sang, une fois jailli, sur lequel vous appuyez, Amélie Nothomb?
Bon, il y a le moment où on tombe enceinte. Ce moment-là, on n'y assiste presque pas. Parce que l'instant où tout à coup ça prend possession de vous, on ne l'a pas vu venir et c'est tellement improbable à chaque fois. Pourtant, ça m'est arrivé un grand nombre de fois puisque je suis toujours enceinte du 89e. Donc, je suis tombée enceinte 89 fois et malgré tout, le phénomène est toujours aussi miraculeux. Chaque fois que ça se produit, je me dis « Oh ! Ça y est !» Bon. Alors, une fois qu'on l'est, bon, parmi les différences entre la grossesse physiologique, enfin, que je n'ai pas vécue, et la grossesse
littéraire,
notombiste
littéraire.
Je ne sais pas, littéraire, je ne peux pas dire, parce que ça supposerait que les autres écrivains vivent ça de la même façon. Je n'ai jamais été un autre écrivain que moi, donc je ne sais pas si... Donc,
grossesse notombiste.
Voilà, prenons le notombe comme une espèce animale encore peu connue. Ça veut dire que je suis encore en train d'entendre le son du 89e qui m'habite, et déjà, j'essaye d'entendre le son du 90e, et ça, c'est vraiment une question d'oreille. Est-ce que ça va être du dialogue? Est-ce que ça va être écrit avec un « je » Est-ce que ça va être écrit avec un « il » ou un « elle » Ça, c'est vraiment une question d'oreille. Ça dépend exactement où on sent sa grossesse. Est-ce qu'on la sent là? Est-ce qu'on la sent dans ses os? Est-ce qu'on la sent sous la peau? Et n'imaginez surtout pas que les grossesses qui se situent sous la peau soient moins profondes. Ce sont peut-être les plus profondes.
qu'est-ce qui se passe quand vous choisissez que justement cet enfant libre-là, il va aller chez Albin Michel, il va être publié. Oula,
là, vous avez brûlé.
Vous laissez les autres.
Vous avez brûlé 15 étapes.
Alors,
en une seule question.
Reprenons.
Cette question-là est tellement tardive qu'au moment où on tombe enceinte, je vous assure que c'est la dernière question qu'on se pose. C'est déjà tellement hasardeux, risqué, fou de tomber enceinte que si à ce moment-là, il fallait en plus se poser la question de l'éditeur. Là, la métaphore dont je me sers toujours, c'est quand on fait l'amour, est-ce qu'on est vraiment capable de penser au bébé que ça va éventuellement donner? C'est pas possible. Enfin, on fait l'amour, quoi. On peut pas. Il va se passer du temps avant qu'éventuellement on réfléchisse aux conséquences de son acte. Là encore, je donne la parole à Proust, qui, dans une de ses préfaces, écrit si l'on écrit dans l'idée de donner du plaisir aux autres, on risque bien de ne pas y arriver. Si on en écrit dans l'idée de se donner du plaisir à soi, on risque bien de donner du plaisir aux autres. C'est tout à fait ça. On a toujours tendance à se croire exceptionnel, c'est totalement faux. Ce qu'on a d'exceptionnel est tellement isolé. La vérité, c'est qu'on est comme tout le monde. C'est que si on veut vraiment espérer donner du plaisir à quelqu'un d'autre qu'à soi, il faut d'abord en donner à soi. Donc, le paradoxe, c'est qu'il faut être au comble de l'égoïsme si on veut peut-être donner du plaisir à quelqu'un.
Alors, avant qu'on sache comment vous décidez finalement de cet objet de plaisir qui sera donné au public, dans le détail de l'écriture, il y a d'autres arbitrages qui vont se faire puisqu'on a décidé de remonter un peu l'horloge et de pas tout de suite arriver chez l'éditeur. Je reprends toujours Hygiène de l'assassin parce que c'est vraiment l'art poétique et c'est bien de s'y replonger. Il y a notamment ces mots sur le travail de la syntaxe qui est plus important que le travail sur la métaphore, surtout pas. C'est ça qui se passe dans le texte.
C'est d'abord de la syntaxe. La syntaxe, mais c'est vraiment c'est l'harmonie. C'est ce qui vous permet de savoir si des notes vont produire quelque chose d'heureux ensemble ou si, au contraire, vous allez pouvoir produire une dissonance intéressante. C'est aussi pour ça que, excusez-moi la vieille réac qui parle, c'est aussi pour ça que je suis désespérée de voir que non seulement on n'enseigne plus la grammaire, mais qu'on n'enseigne plus le latin et le grec. Donc, je le vois dans les lettres des jeunes gens que je reçois, la syntaxe devient la grande inconnue. Comment voulez-vous enseigner la musique si on n'enseigne pas le solfège ? La syntaxe, c'est le solfège. C'est la maîtrise de base et on ne l'enseigne plus. Donc, la vieille réac s'inquiète.
Et qu'est-ce que la vieille réac Amélie Nothomb a contre les métaphoriens ? C'est comme ça que vous les appelez ?
C'est que bien sûr que la métaphore est importante. Alors, je me suis exagérément indignée contre la métaphore dans Hygiène de l'assassin, mais c'est parce que arriver tout de suite à la métaphore, mais c'est n'importe quoi. La métaphore, il faut y arriver quand on a épuisé toutes les possibilités. Toutes les possibilités lexicales, syntaxiques, toutes les autres. Si vraiment il n'y a plus moyen d'exprimer la chose très subtile qu'on cherche à exprimer, alors oui, d'accord, à ce moment-là, on est autorisé à se servir d'une métaphore. Avec toujours le danger des métaphores, c'est que les métaphores sont toujours approximatives. Et je vois tellement d'écrivains qui abusent des métaphores forcément parce que c'est très séduisant, parce que c'est facile. Mais en même temps, les métaphores sont toujours boiteuses. Par exemple, je ne cesse, mea culpa, je ne cesse de recourir à la métaphore de la grossesse. Et pourtant, cette métaphore est infiniment boiteuse puisque même dans le cas du prenons la masterclass que je suis censée faire ici, vous voyez bien que la métaphore de la grossesse n'est pas tout à fait, enfin, elle est très loin d'être correcte. Puisque, quand même, je garde un sacré pouvoir de décision sur ce que je fais. La femme, quand elle est enceinte, elle ne sait pas exactement comment il est le petit pied qu'elle est en train de crier. Alors que moi, je le vois, le pied. Je peux choisir les mots qui feront que ce pied boitera ou ne boitera pas. Mais, voilà, c'est... Les métaphores sont à garder pour les cas d'extrême urgence. Et je sais que je me sers moi-même de métaphores, donc je suis en pleine. Je savais bien que quand j'avais accepté, vous savez que quand cette personne est venue me proposer de faire cette masterclass à la BNF, vous savez que j'étais ivre. Ceci explique beaucoup de choses.
Alors, On va se plonger un petit peu dans les exemples, peut-être pour sortir des métaphores. On va avoir recours à un autre système. Dans Le crime du comte de Neuville, votre 24e roman, vous naviguez entre le crime de Lord Arthur Saville d'Oscar Wilde et Antigone de Sophocle. Est-ce que vos lectures guident aussi le dessin de l'enfant, Amélie Nothomb, l'enfant livre?
Mais bien évidemment, de même que quand on est enceinte, la nourriture joue un rôle capital. Quand on écrit, évidemment que tout ce qu'on a assimilé joue un rôle capital. Là encore, il s'agit de se laisser guider par certains sons, par certaines structures. Bon, là, c'était surtout une question de structure. Là, c'était la structure du crime de Lord Arthur Saville d'Oscar Wilde, qui est tellement révolutionnaire parce que... C'est une enquête policière qui commence par la révélation de l'assassin. On sait qui est l'assassin dès le titre. Et on attend les dernières pages pour savoir qui est la victime. C'est génial. C'est tout. Je voulais écrire un crime de cette nature où on sait d'emblée qui est l'assassin, mais on attend désespérément de savoir qui est la victime. Parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Des assassins, on se doute assez vite qu'on est un assassin, mais toute sa vie, on se demande, mais qui est-ce que je vais tuer au juste?
Toujours pas moi. Antigone.
Non, je ne pense pas que ce sera vous.
Antigone de Sophocle, qui joue aussi à l'intérieur de ce texte.
Oui, parce que, bon, Sérieuse, qui est mon Antigone, elle est épouvantable, honnêtement. C'est une horrible adolescente, c'est affreux, c'est moi, quoi. Elle est abominable. C'est moi à 17 ans. À 17 ans, il ne fallait pas me rencontrer. Je vous assure, heureux que vous êtes de m'avoir rencontré à l'état de vieux débris et pas à l'état d'adolescente. Vous auriez été absolument révulsé de la personne que vous auriez rencontrée. Et pourtant, je me souviens que mes idéaux étaient parfaitement élevés. À 17 ans, je parlais grec et latin infiniment mieux que maintenant. Donc, je lisais Sophocle dans le texte, je le citais dans le texte. Et bien sûr, alors on a tous été dévoyés par Anouilh. Bon, j'adore Antigone d'Anouilh, mais c'est facile, Antigone d'Anouilh. C'est la dénégation de la véritable Antigone, qui est celle de Sophocle. La véritable Antigone, c'est celle qui dit « je suis de ceux qui aiment et non de ceux qui haïssent ». C'est ça qui est extraordinaire dans cette tragédie, c'est que la personne qui est à l'origine de si grand malheur est une personne qui le fait au nom de l'amour et contre la haine. C'est ça la vraie tragédie. C'est une force d'amour à ce point puissante qui est capable de donner sa vie pour un idéal supérieur et qui est à l'origine d'un véritable... Enfin, pas d'un génocide, mais de la mort de toute une famille. Antigone va tuer toute sa famille parce qu'il faut voir ce qui se passera encore après la mort d'Antigone. Enfin, si les Atrides sont condamnés, c'est bien plus à cause d'Antigone qu'à cause d'Édipe.
On est dans les lectures qui peuvent traverser vos œuvres, Amélie Nothomb, mais il y a aussi cette idée de lecteurs qui parfois passent à côté des œuvres, qui ne sont pas comme vous. Vous parlez parfois de lecteurs grenouilles qui traversent les livres sans perdre une goutte, contrairement aux lecteurs écrivains qui mangent les livres et qui vont ensuite modifier ses composantes, sa substance. Vous vous sentez comme ça nourri et transformé par la littérature?
Bien sûr, c'est... Rien n'a été plus capital dans ma vie que certaines lectures. J'ai parlé tout à l'heure de l'influence extrêmement concrète qu'a eu sur moi la lecture de Lettres à un jeune poète, mais je pourrais vous en parler. Il y a tant de livres comme ça qui m'ont détruite, qui m'ont créée, qui m'ont meurtrie, qui m'ont changée pour toujours. Et j'ai toujours été absolument stupéfaite de m'apercevoir qu'il y avait certaines personnes pour qui la lecture n'était pas un axe à ce point absolu. Qui sortait de lectures aussi capitales que Proust ou que Marguerite Yourcenar, mais non seulement en parfaite santé, mais en disant encore des choses qui prouvaient qu'elles n'avaient pas été imprégnées le moins du monde par ce qu'elles avaient lu. Donc, Dieu sait que je ne me compare ni à Proust ni à Marguerite Yourcenar, mais quand je reçois aussi aujourd'hui des lettres sur mon tout dernier livre, dont le titre m'échappe, mon Dieu, où suis-je, qui me disent, écoutez, on a lu votre livre et en fait, on aimerait bien savoir qui est l'assassin.
Ah oui.
Alors moi, quand je lis ça, je dis, mon Dieu, c'est possible. Est-ce qu'il est possible d'avoir la moindre doute? C'est même pas un mystère, enfin, c'est même pas une énigme, tout est donné, on sait qui est l'assassin. Et bien, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, est-ce qu'on peut savoir qui est l'assassin? Bon, ça prouve bien que tout le monde ne lit pas au même degré.
Il y a effectivement des lecteurs grenouilles. Mais oui. Vous avez ça en tête, d'essayer de justement leur faire perdre un peu d'eau à travers un de vos livres, Amélie Nothomb?
Je ne parviens, là encore, au moment même de la... il s'agit de faire l'amour. Comment voulez-vous, à ce moment-là de passion, comment voulez-vous penser qu'il y ait quelqu'un qui va à ce point rien remarquer? Bon, et pourtant, ce quelqu'un est souvent ma maman, que j'aime infiniment, qui même... Ma maman a lu Cosmétique de l'ennemi, hein, et elle m'a dit, écoute, j'ai beaucoup aimé ton livre, mais à la fin du livre, je dois te poser une question. Pourtant, j'ai fait très attention. Hein. Lequel des deux personnages s'appelle Cosmétique? Je suis restée absolument interdite. Je me suis demandé, mais ce que j'allais pouvoir... Pourtant, c'est ma maman, et c'est une femme supérieure, c'est une déesse, et même elle n'avait pas compris, alors... Comment voulez-vous qu'on puisse anticiper de telles questions? C'est absolument pas possible. Bon, à partir du moment où j'ai compris que j'allais faire partie de cette gigantesque préméditation qui s'appelle l'écriture, j'ai fait mienne cette parole de Stephen King qui dit que écrire, c'est faire de... de la prémonition en temps différé, c'est-à-dire que vous donnez les moyens d'atteindre une telle jouissance au moment où vous écrivez, et ça va être la même chose pour les lecteurs. Vous faites le pari que pour les lecteurs, ça va être exactement la même jouissance que vous. C'est évidemment un objectif, on ne peut plus aléatoire, mais il faut quand même se persuader que c'est vrai. Parce que si on se persuade que c'est vrai, ça peut être vrai pour quelques lecteurs. Si on part du principe que c'est impossible, évidemment, ça ne peut pas marcher. Et Stephen King enseigne quelques moyens d'y arriver. Il dit, pour obtenir cette coïncidence entre votre fantasme et celui qu'éprouvera peut-être votre lecteur, surtout allez droit à l'essentiel. Le diable est dans les détails. Eh bien, mettez un minimum de diable, mettez un minimum de détails, parce que sinon vous allez perdre tellement de gens en cours de route. Que vos détails soient vraiment bien choisis. Donc, c'est vrai, regardez, c'est pas pour rien que mes livres sont tout petits et qu'ils sont de plus en plus petits chaque année. C'est que chaque année, j'apprends tout ce que je peux ne pas y mettre. J'apprends tout ce qui permettra, je l'espère, au lecteur d'atteindre d'emblée le même fantasme et peut-être même la même jouissance que moi.
Alors, Amélie Nothomb, il faut qu'on confesse quelque chose. On a déjà abusé de la métaphore de la grossesse pour les livres, du sexe pour la conception.
Vous allez regretter de m'avoir invité.
De la nourriture littéraire. Bon, ça, c'était dans la première partie de cette masterclass. Et abuser aussi d'autres plaisirs liquides. On va s'intéresser maintenant à ce qui peut... traverser votre écriture en termes de son. Vous parlez beaucoup de voix, mais concrètement la musique, si on pense par exemple au fait que vous avez écrit Le Pont Juliette pour l'album Ça se traverse et c'est beau de Juliette Gréco, si on pense aussi que vous avez une révélation en écoutant la chanteuse Björk, que vous êtes un temps devenu obsessionnel du groupe Radiohead.
Je suis toujours.
Quel rapport vous entretenez avec cette musique-là, qui n'est pas forcément celle de l'écriture?
La musique est de très loin celui des arts qui est le plus important pour moi. Là encore, j'écris parce que je ne peux pas écrire de la musique. Si j'avais pu choisir mon talent, j'aurais écrit de la musique. La musique va tellement plus loin que la littérature. Par ailleurs, à mon niveau combien humble, c'est quand même ce que j'essaye de faire. J'essaye de trouver non pas ma musique, parce que c'est un trop grand mot pour moi, mais mon son. J'essaye de reconstituer mon son avec les moyens du langage. Quand je tombe enceinte d'un livre, je sais moins l'histoire que le son que je veux me donner. Je sais exactement la sensation forte que je veux atteindre avec les moments où je tombe dans le vide, avec les moments où je suis rattrapée à la dernière seconde. Ça correspond pour moi à un son. Et j'essaye de reproduire ce son avec les moyens du langage, et parfois j'y parviens.
Et la musique, c'est aussi un élément déclencheur sur le plan narratif. Par exemple, dans le journal d'Hirondelle, le narrateur, il devient tueur à gages, il n'éprouve aucun plaisir à part quand il écoute Radiohead dans le conte de Neuville. C'est sur du Schumann, je crois, que l'héroïne
Schubert
a une épiphanie et décide finalement de vivre. Est-ce qu'il y a aussi une question de vie ou de mort avec la musique?
Oui, Schubert a joué exactement le même rôle dans ma vie que pour la jeune sérieuse dans Le crime du comte Neville. Et par la suite, j'ai toujours été à la recherche d'un son. C'est le grand paradoxe de la musique, là encore, je parle d'un art que je ne connais pas, donc j'en parle de façon complètement analphabète, c'est que je cherche à posséder des musiques et dès l'instant où j'ai l'impression de les posséder, je passe à quelque chose d'autre. Donc, il y a eu Schubert qui m'a sauvée à un moment où je ne ressentais plus rien. Et puis, bon, la vie est en fait de cycles. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression de revenir à un moment où je ne ressentais plus rien. Et à ce moment-là, c'est Radiohead qui a joué ce rôle-là. C'est une question de vie ou de mort, parce qu'on ne peut pas vivre sans rien éprouver. Et que quand on éprouve vraiment plus rien, il n'existe que quelques sons qui puissent encore vous faire éprouver quelque chose. Dans un premier temps, Schubert, qui est toujours mon compositeur préféré, et dans un deuxième temps, Radiohead, qui reste un groupe extrêmement important pour moi.
Enfin, vous avez quand même eu du mal à vous détacher de cette obsession. Vous auriez pu tuer à cause de Radiohead, presque.
Mais c'est Orange Mécanique avec Beethoven, sauf que moi, c'est pas Beethoven, c'est Radiohead. Ce nom de groupe est extrêmement bien choisi. Et je ne cherche en aucun cas à affirmer que je leur ressemble, mais le nom de groupe le dit. C'est une façon de considérer la tête comme une radio, c'est-à-dire comme un récepteur. En créant, c'est aussi ce que je fais. Ma tête est un récepteur. Il s'agit de... Je pense que ma tête reçoit beaucoup de choses, mais encore s'agit-il de faire une sélection entre tous ces sons. Et tous ne sont pas intéressants, il faut garder les bons. Et c'est aussi ce que je fais, ce que j'essaye de faire dans l'écriture, c'est je ne garde pas tout, je garde ce qui fait sens, et j'essaie autant que possible de reconstituer sur le papier le son que je reçois à travers tous ces sons. C'est là que vous...
C'est une radio mentale.
Oui. Je vis une tragédie.
Mais écoutez, on va s'occuper de cette coupe de champagne, Méline Auton.
Je suis désolée, ça me rassure.
Bon, mais on va... Ne vous inquiétez pas, ça va se faire, voilà. C'est un monsieur, pour une fois, que ce n'est pas une femme qui se lève pour...
Ah, j'adore.
Alors, on va continuer à se balader un petit peu dans les rapports que vous pouvez avoir avec d'autres arts. Je sais que vous avez été adapté au théâtre, notamment par Pierre Santini pour Hygiène de l'Assassin et Barbe Bleue, au cinéma, entre autres, par Alain Corneau pour Stupeur et Tremblement. Vous avez vu ça comment?
C'est une expérience prodigieuse. J'appelle ça mes petits-enfants. C'est un peu fatal quand on est abondamment maman depuis un très grand nombre d'années. Ce qui vous pend au nez, c'est de devenir grand-mère. C'est-à-dire que vos enfants séduisent à ce point d'autres artistes que ces autres artistes veulent faire un enfant à votre enfant. Alors dans un premier temps, je suis une belle-mère, c'est-à-dire un être abominable, et je me montre une belle-mère digne de ce nom, c'est-à-dire que je reçois mes éventuels gendres ou brus, mais de façon exécrable, c'est-à-dire que je les... Mais qui êtes-vous, jeune homme? Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Mais est-ce que vous avez une situation? Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait dans la vie? Et qu'est-ce que vous lui voulez à mon enfant? Enfin, dans un premier temps, je suis abominable. Mais que dès l'instant où le gendre ou la bru potentielle m'a convaincue, alors je deviens la meilleure belle-mère de l'univers, c'est-à-dire que je dis tout à coup, écoutez... Vous m'avez convaincue, n'en dites pas plus. Je vous donne la main de ma fille ou de mon fils. Et maintenant, je ne veux plus rien savoir. Ce que vous allez faire au juste avec mon enfant, je ne veux pas le savoir. Mais je compte sur vous pour que le petit-fils ou la petite-fille soit le plus beau possible, la plus belle possible. Ça peut donner lieu à j'ai des petits-enfants éblouissants de beauté. J'en ai quelques-uns un peu moches, faut bien le dire.
Mais Peur et Tremblement est un...
Il est très beau. C'est un très très beau petit enfant. Mais là, j'ose dire que c'est un risque qui me dépasse. Si je considère que mon enfant est devenu adulte, je dois lui laisser tous les droits, y compris le droit de se tromper, le droit d'épouser quelqu'un d'abominable et de faire un petit enfant horrible. Ça m'est arrivé, j'ai très peu de petits enfants horribles, mais j'en ai. statistiquement, c'est juste une fatalité. Je constate quand même que j'ai plus de petits-enfants magnifiques que de petits-enfants horribles.
On ne donne pas les noms des petits-enfants.
Ne tenons pas.
Très bien. C'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur les méthodes de travail, les masterclass de France Culture à la BNF. Et donc, vous êtes ritualiste. Amélie Nothomb, on ne peut pas dire le contraire. Vous écrivez entre 4h et 8h du matin.
Tous les jours de ma vie, depuis plus de la moitié de ma vie.
Avec un stylo Bic bleu cristal.
Oui.
Et un demi-litre de thé noir.
Oui.
En quoi ça vous serait impossible de faire autrement?
C'est tellement difficile d'écrire. Chaque matin, la dernière pensée qui me vient à l'esprit avant de m'y mettre, c'est-à-dire juste quand j'ai fini de boire mon thé noir et quand je me jette sur le stylo Bic pour commencer à écrire, la dernière pensée qui me vient à l'esprit est toujours « je ne vais pas y arriver ». Dans l'idée d'y arriver quand même, je ritualise le truc au maximum. C'est-à-dire que je vis en dictature. C'est une dictature absolue. C'est-à-dire que même si je suis malade comme un chien, et ça m'arrive régulièrement, même si c'est la fin du monde, parce que ma vie est normale, c'est-à-dire que je vis régulièrement la fin du monde, même si je suis à Tombouctou, enfin, quelles que soient les conditions, c'est indiscutable. Je vis une telle tyrannie que de toute façon, je dois écrire de 4h à 8h du matin, point barre. Je veux rien savoir. T'as pas... Alors, quand j'entends des gens qui me disent « je voudrais devenir écrivain, mais j'ai pas d'inspiration », moi, j'ai toujours envie de dire mais où êtes-vous? Enfin, vous croyez quoi? Que ça va venir? Qu'on va vous aider? Qu'il y a des trucs? Qu'est-ce que vous croyez? C'est horrible d'écrire. C'est le plus grand plaisir du monde. Mais le moindre des prix à payer, c'est que ce soit horrible. Bien sûr que les trois quarts du temps, je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire, que ça me paraît beaucoup trop difficile pour moi. Mais ce qui, paradoxalement, me facilite la vie, c'est que je ne me laisse aucun choix. C'est comme ça. De toute façon, tu y vas, tu es malade, je m'en fous. Tu vomis sur ta feuille, ça m'est égal. Tu continues. Et croyez-moi, là, pour le coup, c'est pas du tout des métaphores. Il m'arrive d'être très malade et d'écrire quand même. Et parfois, je ne sais même pas ce que j'écris. Je m'en fiche, je veux pas le savoir. Tu y penses toute la journée. C'est ton véritable but. C'était pas de faire une masterclass à la BNF, si grand soit le plaisir. C'était pas de rencontrer des gens aussi extraordinaires que vous tous, si grand soit le plaisir. Ton véritable but, c'était quand même de vivre ça. Si votre véritable but n'est pas d'écrire dans les conditions les plus dures, sans aucune garantie que ce que vous écrivez a la moindre valeur, si votre véritable but n'est pas ça, arrêtez tout de suite. Si votre véritable but est un jour d'être respecté et d'être dans une anthologie, arrêtez tout de suite. Les probabilités sont tellement faibles que ça se réalise. Tandis que les probabilités que vous souffriez le martyr, elles sont tellement fortes que si vous acceptez que ce soit dur à ce point et que vous acceptez même de considérer qu'une épreuve à ce point dure puisse être le comble de votre plaisir, alors vous pouvez le faire.
Il y a une épreuve encore plus dure, c'est de passer une journée sans écrire. Je crois que ça vous est déjà arrivé une fois, c'est votre pire journée.
C'est ma pire journée, heureusement elle n'a eu lieu qu'une seule fois depuis, mon Dieu, bien longtemps. C'était en septembre 97, c'était un dimanche. Et j'étais en promo pour, je crois que c'était Attentat ou Mercure, je ne sais plus, enfin l'un de ceux-là.
Oh, l'un de ses enfants.
L'un de ses enfants. Et un dimanche matin, je me suis dit, je suis fatiguée. Et c'est bien naturel hein, de ne pas vouloir se réveiller à 4h du matin. Je vous assure qu'il ne m'est absolument pas naturel de me réveiller si tôt. Et d'autant plus que je me réveille souvent beaucoup plus tôt que ça. Ça ne m'est pas naturel. Essaye le dimanche matin d'une personne normale, personne ne le saura, tu ne le diras à personne, tu vas rester au lit, tu vas manger des croissants et lire un bon livre, ça va être absolument divin. Eh bien, en moins de temps qu'il n'a fallu pour le dire, j'ai connu l'enfer, ça a été affreux, tout ce confort était abominable, j'ai tout de suite eu 13 ans avec toutes les souffrances qu'éventuellement on supporte à 13 ans parce qu'on n'imagine pas d'autres possibilité de vie, et c'était affreux. Et donc, ce matin-là, j'ai compris plus jamais ça, je ne veux plus jamais avoir 13 ans. Donc, j'écrirai vraiment tous les jours, quoi qu'il en coûte.
Vous avez commencé à écrire, vous dites à 17 ans, mais avant, il y a une autre pratique de l'écriture qui se fait un petit peu sous la contrainte parentale, c'est la lettre au grand-père. Vous dites qu'à ce moment-là, vous
avez... C'est loin, la bouteille.
Elle est loin, cette bouteille, elle est arrivée. Je ne sais pas ce que fait le monsieur.
Je suis désolée.
Bon, on fait une petite pause.
Oui, non, ne faisons pas une pause.
J'ose pas vous proposer de l'eau.
Non, surtout pas, vraiment pas. Vous mâchez
pour rien. Pas. Mais là, vous avez commencé à développer ce que vous appelez le sens de l'autre. Quand même, la conscience du lecteur, même si on ne peut pas se projeter dans l'élan de l'écriture et la confusion sexuelle que vous décrivez quand vous écrivez.
C'est vrai que mon frère, ma sœur et moi, depuis l'âge de 6 ans, nous avons tous les trois été confrontés à la même loi, à savoir que nous devions, chaque semaine, écrire une lettre, remplir une feuille, à 4, à notre grand-père que nous ne connaissions pas et qui vivait en Belgique. Et comme quoi les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, mon frère et ma sœur ne sont pas devenus les pauvres épaves que vous avez sous les yeux. Mais je me souviens du problème que c'était. C'était le dimanche soir, et enfin, ça devait être fait avant lundi matin. Donc forcément, je le faisais le dimanche soir, de remplir cette page. Et je dis, mais je me souviens, je parlais à ma mère, puisque c'était la fille de ce personnage. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je mette dans cette lettre? Je ne connais pas ce monsieur, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais raconte-lui ta vie. Mais maman, je vais à l'école, j'ai des... Pourquoi veux-tu que ça l'intéresse? Donc déjà, j'avais ce souci, dès l'âge de 6 ans, il fallait que ça intéresse. Et ma mère me dit, mais tu peux intéresser la vie de ton grand-père, tu peux intéresser ton grand-père avec ta vie. Alors, je me souviens que j'attendais impatiemment le carnet de notes, parce que le carnet de notes qu'on recevait une fois par mois, je recopiais mon carnet de notes en prenant le plus d'espace possible. Là, j'étais sauvée une fois par mois par le carnet de notes, mais il y avait les trois autres semaines du mois où il n'y avait pas le carnet de notes et où il fallait bien trouver quelque chose à écrire. Et c'était d'autant plus traumatisant que le grand-père répondait, donc il montrait qu'il avait lu les choses, donc... Mon Dieu, c'était une angoisse fondamentale. Il a fallu des années et des années pour ce qui était pour moi une angoisse et un pinsomme devienne quelque chose d'intéressant. Le temps de remarquer qu'en fait, ça se faisait à deux, qu'il y avait une réaction, que ça provoquait une réaction de l'autre côté du papier. Ce n'est évidemment pas la seule chose qui a fait de moi un écrivain. Je le rappelle, mon frère et ma sœur, s'ils écrivent, n'écrivent pas. Ah, mon Dieu. Merci à vous, monsieur. Merci infiniment. Merci. J'allais très bien, mais je vais beaucoup mieux maintenant.
Merci, monsieur.
Voilà, la grande révélation, c'était de savoir que quelqu'un se cachait de l'autre côté du papier et que finalement, les liens qui se nouaient avec cette personne inconnue étaient d'une force inimaginable.
Et vous sentez toujours, quand vous écrivez aujourd'hui, cette autre personne de l'autre côté du papier?
Au moment de l'écriture, je ne le sens pas, mais au moment de la publication, je le sens. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, quand je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année et que là, je suis capable de sortir de ma lecture à moi, mais de lire éventuellement avec ce que je peux capter de la lecture de bien des gens que je vois ici. Là, c'est... Bon, bien évidemment, c'est une tentative vouée à l'échec. Ce serait quand même extraordinairement prétentieux de ma part de supposer que ça va vous plaire. Comment est-ce que je peux supposer que ça va vous plaire? Mais enfin, je me dis peut-être qu'éventuellement ça va leur parler. C'est déjà beaucoup.
Parfois ils comprennent, parfois ils vous demandent qui est l'assassin, alors que c'est écrit en toutes lettres. Et vous avez des rapports très proches avec vos lecteurs.
Écoutez, il y a dans cette salle, je ne peux pas le dire, mais il y a dans cette salle mon lecteur absolu. Qui se reconnaîtra?
Donc, pourquoi est-il votre lecteur absolu?
Parce que ce lecteur est exactement dans mon angle mort et voit tout ce que je... C'est extraordinaire. Vivre cette expérience, je souhaite à toute personne qui écrit de rencontrer un jour son lecteur absolu. Mon lecteur absolu est dans cette salle. Et quand ce lecteur me renvoie ses impressions de lecture, je suis dans la situation d'Orphée qui n'a pas pu se retourner et qui se retourne quand même. Je vous assure que ça fait beaucoup d'effet.
Vous avez des échanges épistolaires avec des lecteurs absolus, pas absolus.
Un lecteur absolu, c'est déjà beaucoup.
des lecteurs relatifs.
Mais à côté aussi. De ça, j'ai des tas de lecteurs excellents. Mais le lecteur absolu, par définition, on ne peut en avoir qu'un.
Et vous connaissez les prénoms, vous.
C'est la moindre des choses. Enfin, il se passe des choses tellement intenses entre mes lecteurs et moi, c'est la moindre des choses que je connaisse leurs prénoms, leur anniversaire, notre anniversaire de rencontre, la tenue que je préfère sur eux. C'est normal.
L'enfant que vous aimez le plus ensemble.
Voilà.
L'enfant livre. Mais du coup, est-ce qu'il y a. Vous avez parlé d'un sentiment magnifique dans ces échanges avec les lecteurs et aussi d'une angoisse. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas cette chose qu'on retrouve aussi dans vos livres, c'est-à-dire l'angoisse de ne pas être à la hauteur de leur amour, de ne pas finir un peu comme la déesse froide qu'on peut croiser dans les romans d'Amélie Nothomb?
Mais bien sûr, cette angoisse, je l'ai chaque année, et je l'ai chaque année davantage, parce que plus une histoire d'amour a duré longtemps, plus cette histoire d'amour a été convulsive, plus la peur de décevoir est grande, et plus la chute. Plus dur sera la chute. Donc, chaque fois que je publie un livre, je suis vraiment... Je vis les affres. Je vis les affres.
Et l'inquiétude de cette froideur, c'est quelque chose d'omniprésent dans ce que vous écrivez, dans votre rapport au lecteur. Vous avez fait une thèse sur Bernanos, ce qui dit que l'enfer, c'est le froid. C'est une obsession pour vous de tomber dans la froideur, de s'égarer.
Mais bien sûr, parce que ça, c'est le jour où je ne susciterai que de la froideur, Dieu merci, ce jour ne m'est pas encore arrivé, ça signifiera simplement que je serai arrivée au degré de folie où plus personne ne pourra me suivre. Le risque est grand en s'isolant tous les jours tant d'heures dans un truc aussi fort que l'écriture, le risque est grand de perdre la raison. C'est quand même un certain garde-fou de publier un livre par an et de voir l'effet produit. Vous me suivez toujours, ça veut dire que si je suis folle au dernier degré, vous assumez de l'être peut-être autant que moi. Eh bien, je vous assure que ça rassure.
Et si on pense à vos personnages, en quoi ce sont eux aussi des gens qui sont dans le piège de la froideur, dans le danger de la froideur? C'est aussi ces dispositifs-là que vous reproduisez dans vos romans.
Oui, et en même temps, la froideur, ça m'arrive aussi. Parfois, je rencontre des gens qui ne suscitent en moi que de la froideur et qui ne supportent pas de ne susciter en moi que cette froideur et qui vont aller jusqu'aux dernières extrémités pour susciter chez moi autre chose que cette froideur. Et Dieu sait si ça peut être terrible. Mais voilà, l'enfer, c'est le froid. Bernanos, il a trop raison. Quelle que soit la façon d'interpréter cette phrase, toutes les interprétations de cette phrase sont vraies.
Beaucoup plus que le chaud.
Oui, alors le chaud, évidemment, c'est abominable, mais en même temps, le chaud, c'est la vie. Le froid, c'est on le sent arriver. La mort, ça ressemble à un gigantesque froid. Quand on tombe dedans, je me souviens, quand j'ai failli mourir d'anorexie, je vivais dans un pays extrêmement chaud, il faisait 40 degrés, tout à coup, je me suis sentie mourir de froid. C'est intéressant de sentir que la mort correspond à un froid aussi grand que ça.
Et on sent qu'il y a ce froid qui guette les personnages, qui peut les geler à un moment ou à un autre, et régulièrement, et souvent aussi à des dates clés qu'on retrouve à travers vos différents livres. Est-ce que vous avez le sentiment de faire œuvre? Vous avez pu parler parfois d'un rébus, ou récemment dans la presse, j'ai vous parliez d'un géoglyphe, c'est-à-dire un dessin.
Je signe une prétention juste abominable.
Mais c'est vrai que c'est visible que par les dieux.
Mon vrai rêve, c'est ça, c'est que mon œuvre soit un gigantesque géoglyphe. C'est-à-dire que ce soit une espèce de jeu de piste visible par les dieux. Excusez-moi, j'étais une enfant mégalomane et comme maintenant je vieillis, je suis en train de retomber en enfance, donc je retombe dans mes errements.
Vous le voyez, ce dessin se faire avec les 26 romans publiés et 90 livres enfantés?
Chaque fois que je vous entends dire 90, je me dis, mais quelle victoire!
Vous le voyez faire, ce dessin, vous en êtes contente?
Contente, quel mot.
Enfin non, contente, quel mot.
Ça m'intéresse de voir peu à peu. Vous savez, les géoglyphes répertoriés, il existe beaucoup de géoglyphes. Ils sont très intéressants. La majorité d'entre eux représentent des oiseaux, mais il y en a aussi beaucoup qui représentent des serpents. Et il y en a un qui représente un serpent qui fait ça. Et j'aimerais bien que ce soit quelque chose comme ça.
Est-ce que ce n'est pas une façon un petit peu d'enfumer l'ensemble de la communauté, des lecteurs et des journalistes?
Je ne me permettrai pas.
On va finir par trouver un sens et une clé.
Non, je vous jure, parce
sachant qu'en plus, il y a toute une partie immergée de l'iceberg. Je rappelle, il y a 90 livres, et donc nous, on voit que un chaque année, sur les quatre qui sont produits.
Non, je vous jure que non. Voilà, vous n'êtes pas forcé de me croire, mais dites-vous bien que je suis quand même dans la même situation que vous, en ceci que ce qui me tient lieu d'œuvre est loin d'être terminé, donc à supposer que ce soit un géoglyphe, je le vois se faire en même temps que vous. Donc, si ça se trouve, c'est juste un géoglyphe stupide. Mais ça a cette ambition-là, quand même, de se voir d'aussi loin. Et je persiste à penser que, vu de loin, ça donnera vraiment quelque chose. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je sois morte. Nous n'en sommes pas là, mais rassurez-vous, ça viendra.
Oh. Si vous deviez retoucher, néanmoins.
Oh non, vraiment pas.
Rien.
Vraiment pas. Je vous assure que... Alors, ça peut avoir l'air d'une prétention absolue. Je vous jure que non. Tout ce qui est publié, si c'était à refaire, je republierais tout. La seule chose qu'éventuellement je changerais, c'est que je ne donnerais pas certaines interviews. Mais c'est pas la vôtre, je vous rassure. Mais ce qui est publié, si c'était à refaire, je republierais tout.
Si on se place au début justement de cet entretien, dans cette position de journaliste intervieweur, alors dans Hygiène de l'assassin, ils sont quatre à échouer, il y a la cinquième qui finit par y arriver.
Mais vous êtes la cinquième, chère Mathilde.
Je suis la cinquième.
Et vous finirez bien par m'étrangler.
Je suis censée vous étrangler à la fin. Cet auteur, donc, qui est un Nobelisé...
C'est pas du tout mon cas.
Voilà, qui est pas encore votre cas. Vous vous rapprochez de cet auteur d'Hygiène de l'assassin, de ce tout début,
Les années m'en rapprochent. Quand j'ai écrit Hygiène de l'assassin, j'avais 23 ans, j'en ai 50. Bon, il a 83 ans. Oui, je m'en rapproche. Hein. Et vous allez voir que je vais m'en rapprocher de plus en plus. Mais écoutez, je crois que jusqu'à présent, je demeure plus ou moins aimable. Peut-être qu'un jour, ça me passera.
Il a notamment cette caractéristique qui est d'avoir écrit un certain nombre de livres d'affilée. Et puis, au moment où les gens les se rendent compte, par exemple, il a pas écrit depuis 25 ans parce qu'il en a énormément produit.
Oui, mais
un grand silence. Le grand silence, ça peut arriver pour vous.
Je sais pas. Il arrête d'écrire à 59 ans. Je vous dirai à 59 ans.
Moi,
on n'y est pas encore. Je peux pas imaginer un quart de seconde de cesser d'écrire. C'est tellement l'essentiel de ma vie. L'essentiel de ma vie a tellement lieu à ce moment-là, je le répète, même si j'aime infiniment vous plaire et être là. Et le vrai but de ma vie, c'est de continuer à écrire dans les mêmes conditions, si dures soient-elles. C'est quand même le moment magique de ma vie. Et je veux continuer à le vivre. Je ne peux pas imaginer qu'un jour je n'ai plus ce désir ou plus cette faculté. Dieu merci, je l'ai toujours. Si un jour je ne l'avais plus, ça c'est une vraie question. Cette question me panique. Je ne peux pas imaginer ça. Ça fait tellement d'années que ça dure. Est-ce que même je me l'autoriserais? Je crois que je deviendrais encore beaucoup plus alcoolique. Là, je suis à peine une débutante. Hein.
Est-ce que vous accepteriez de nous donner quand même, ne serait-ce que le dessin, le contour, l'échographie d'un de ces romans qu'on ne voit jamais?
Ce serait sans intérêt. C'est même pas que je ne vous respecte pas, c'est même pas que je veux protéger mes enfants, c'est que ce serait sans intérêt.
Pourquoi?
Parce que c'est un faux mystère.
C'est
quoi.
Mystère,
c'est pas ça. C'est pas... La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi est-ce que... J'ai déjà tant écrit, j'ai déjà dit des choses extrêmement importantes dans ce que j'ai publié, dans ce que j'ai pas publié. Pourquoi est-ce que ça continue de s'emparer de moi? Pourquoi est-ce que ça continue de m'apporter une telle jouissance, une telle peur et une telle difficulté? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais ça continue de me fasciner. Pourquoi est-ce que ce phénomène reste vrai? Alors, et là encore, ces écritures ne sont pas toutes équivalentes. Il y a deux façons que ça vienne. J'appelle ça soit laisser couler, soit racler. Certains matins, je laisse couler, certains matins, je racle. On voit bien ce que ça veut dire. Quand ça laisse couler, il s'agit de retenir et de... Puis, les matins où je racle, eh bien, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui vient. Hein. Bien sûr que les jours où je suis en moins bonne santé ou où je vois moins clair, je racle. Mais racler, c'est très intéressant aussi.
Donc, vous ne nous donnerez pas ce que peuvent être encore, ces moments de raclage. Et...
La question n'est pas de vous priver de quoi que ce soit. Ouais. La question, c'est de l'intérêt de ce que je peux éventuellement livrer, qui du reste doit être bien, bien peu de choses.
Il y a un seul livre, je crois, qui a été refusé par votre éditeur.
Deux.
Oui, sur les 26, voilà, il y en a deux.
Le deuxième que j'ai apporté est celui que j'avais apporté en début 2014. Alors, le premier, qui a été refusé, il me serait un peu délicat d'en parler, mais le deuxième m'a été refusé parce que j'y parlais d'une substance illicite qui a été très intéressante dans ma vie et qui l'est toujours, qui s'appelle l'ayahuasca, voilà, qui n'est tout à fait légale au Pérou. On arrive au pays des géoglyphes et qui n'est pas légale ici. Donc, j'ai pu entendre ce que mon éditeur m'a dit. Mon éditeur m'a dit, dans ce livre, si je publiais ce livre, personne ne pourrait douter que vous avez une connaissance intime de l'ayahuasca. Ah ben oui, ça c'est clair. Et donc, tout le monde dit déjà que vous êtes dingue. Si on lit ce livre, les gens en auront une confirmation éblouissante. J'ai entendu ce qu'il m'a dit. Je l'ai d'autant mieux entendu que avoir l'air d'être dingue, c'est pas si grave, mais... Je ne nie pas qu'il y a un danger à l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est toujours une grande aventure de ma vie, mais ce n'est pas sans danger. Donc, il ne s'agit pas, en effet, de dire aux gens « Oh, allez-y, prenez de l'ayahuasca, c'est juste trop cool, vous allez voir, c'est super ». Non, certainement, je ne dirai pas ça, c'est un grand danger. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de roulette amazonienne, c'est une prise de risque capitale. Et j'ai vu de mes yeux plusieurs personnes y perdre la raison pour toujours. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas de faire la publicité de ce produit, même si ce produit m'a considérablement apporté.
Donc on peut dire non à un livre d'Amélie Nothomb.
Oh ben oui, ça s'est déjà fait deux fois. Et le comble étant que, voyez la fidélité de Pénélope, alors qu'on m'offre des ponts d'or ailleurs, je suis restée chez le même éditeur. C'est infiniment méritoire quand même.
Merci beaucoup Amélie Nothomb. C'était pas forcément fait pour faire la publicité d'Albin Michel, mais quand même, c'est vrai que vous y êtes fidèle. On a traversé ces enfantements, ces questions de petits-enfants, ces influences dans les différents arts, etc. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, quelque chose que vous n'avez pas exploré ? On a un petit peu parlé de la chanson. Il y a quand même un endroit où vous voudriez aller, au-delà des mots ?
Bien sûr. J'ai toujours le sentiment de ne pas avoir dit le millionième de ce que j'avais à dire. Donc, il y a encore tant de territoires à défricher. C'est pour ça aussi que ça reste passionnant. Alors, à supposer qu'il y en ait parmi vous qui soient venus assister à cette masterclass dans l'espoir d'assimiler pour vous quelques leçons, j'imagine votre déception. Finalement, tout ce que vous voyez, c'est que vous voyez une pauvre vieille alcoolique qui prend de l'ayahuasca, qui est un vrai décombre humain, enfin bref. Le seul message que j'ai à dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, si votre but est autre chose que de vivre le moment de l'écriture, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que le risque est trop grand que ça ne vous apporte rien. Le moment de l'écriture est extrême et il peut vous apporter beaucoup. Mais si vous le faites pour d'autres ambitions, je ne dis pas que ces ambitions sont mauvaises, je comprends très bien qu'on puisse avoir l'ambition d'être célèbre, d'être étudié, d'être invité à la BNF. Mais les probabilités sont trop minces pour que cela se produise.
C'était la masterclass d'Amélie Nothomb avec Mathilde Serrel. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillan.